Bonjour à chacun. Je suis tout enthousiaste ce matin. Merci Giuseppe, parce que tu m'as ouvert la voie. Merci Elvire, parce que tu as posé un fondement qui est cher à mon cœur, Jésus. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci Blaise, tu m'as aussi ouvert la voie. Vous savez, Dieu, il a une surprise pour nous ce matin. Il veut nous faire cheminer, aller plus loin, aller décrocher des choses. Alors j'espère qu'avec moi, vous vous réjouissez. Mon message ce matin va être en plusieurs parties. Ça va être des briques qu'on va mettre les unes aux autres, qu'on va rajouter les unes aux autres, pour pouvoir donner plus de compréhension et de sens à certains termes utilisés ces derniers temps dans notre communauté. Et puis, je vais aussi parler de réussir à entrer dans sa destinée en tant que communauté, mais aussi et surtout en tant qu'individu. Je vais d'abord vous donner un petit témoignage. L'année passée, Alain et moi, nous sommes allés en Bretagne, sur la pointe ouest de la Bretagne, la plus à l'ouest, c'est-à-dire au Conquet. Et tout près, il y avait un lieu dit qui s'appelait Saint-Mathieu. C'est un lieu touristique. Et la première chose que je vois quand j'arrive sur Saint-Mathieu, c'est une grande place pavée, énorme place pavée. En son centre, un puits, un grand puits. Un peu plus loin, une énorme bâtisse, une grande église, on pourrait presque dire une cathédrale, hein, tellement c'était grand. Un grand phare, plusieurs bâtiments. Et tout le long de la place, il y avait des panneaux explicatifs de ce qui s'était passé dans le passé. Ces panneaux, il y avait une gravure qui montrait la place où j'étais, plein de gens, une place pleine de vie, avec des marchés et tout ça, dans l'église, plein de gens qui rentraient, qui sortaient. Cet endroit a été le point de départ de plusieurs moines arrivés d'Irlande, et ces moines avaient reçu un feu pour pouvoir évangéliser la France, évangéliser l'Europe. Ils avaient reçu de prendre soin des pauvres, ils ont créé un hôpital, et ces moines avaient aussi mis en place un des premiers phares. On ne peut pas dire que c'était un phare, c'était un grand feu qu'ils allumaient chaque soir sur une sorte de pierre assez construite en hauteur pour que les marins n'aillent pas s'échouer sur les côtes. Voilà, ça c'est un peu le contexte. Et je me suis approchée du puits, ce grand puits. Je me suis penchée en avant. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu quelque chose qui a brisé mon cœur. Ce puits était rempli de pierres, presque jusqu'en haut. Il y avait juste 30 cm. Hein, d'accord ? C'est mieux de ce côté. Il y avait juste 30 cm où il n'y avait rien. Après, on avait la margelle du puits. Et je voyais cette place avec ce puits bouché, sans eau, sans vie. Cette place, il y avait des gens, mais il y avait peu de gens, il n'y avait plus de vie. L'église, la cathédrale, elle était démolie, démontée. L'hôpital, détruit. On s'est promené un petit peu dans le village, il y avait des tas de maisons détruites. Il y a eu, dans le passé, une vie dans cet endroit, mais il n'y avait plus rien. Le puits qui avait été ouvert, le puits spirituel qui avait été ouvert et qui arrosait et qui amenait la bénédiction dans ce lieu, avait disparu et il ne restait plus rien. C'était triste à en pleurer. Voilà, ça c'est une des premières briques que je voulais poser. Ce matin, je vais vous parler des puits du réveil de 1800. On va lire une intéressante histoire de puits dans Genèse 26. D'ailleurs, c'est surtout là qu'on parle de puits. Je vais refaire un court résumé de la première partie de mon message que j'ai donné au mois de février. J'avais parlé sur saisir sa destinée. Vous vous rappelez, j'ai parlé de l'histoire de David et de Goliath. que David, jeune garçon, face à un défi hors norme. Et puis après, nous allons plonger dans l'histoire de Josué. Josué, successeur de Moïse, et puis il va nous permettre de mieux comprendre comment creuser les puits de sa destinée, ou les déboucher. Voilà. Alors, les puits. Depuis quelque temps déjà, nous entendions que Dieu souhaite ouvrir les puits qui ont été creusés ici, dans ce lieu, par le passé. Qu'est-ce qu'on appelle un puits en termes spirituels ? On va commencer par le commencement. Hein. C'est un endroit ou un état qui amène et qui délivre une bénédiction importante qui va changer le cœur des gens ou le cœur du lieu où la bénédiction arrive. C'est comme l'eau d'un puits qui est vitale et qui permet la vie et que cette vie se répande. Un tout petit peu d'histoire, je sais que vous la connaissez, en tout cas certains parmi nous, surtout Samuel. Il y a 500 ans, la réforme fait une grande percée dans cette petite ville du bout du lac qu'on appelle Genève et transforme cet endroit de grande immoralité et pauvreté en la Rome protestante. Tout ça grâce à Calvin et à d'autres. Cela a profondément changé la société de l'époque et a amené une certaine forme de prospérité et d'élargissement au niveau économique, au niveau santé, au niveau éducation, et dont nous en bénéficions encore aujourd'hui. 300 ans après, il ne reste plus grand-chose de la réforme qui amena ce feu sur Genève. Mais Dieu n'a pas oublié Genève. Et c'est dans les années 1810 que certains jeunes théologiens sont touchés profondément par le Saint-Esprit en lisant certains textes bibliques. Et cela va donner le réveil de Genève, dont sont issues les communautés comme l'oratoire, la pélisserie, etc. Le réveil de ce moment-là, c'est un retour à une foi chrétienne vivante qui a été perdue. Mais c'est aussi la découverte de l'Esprit dans le cœur humain, une œuvre qui commence à la conversion et qui se nourrit d'un face-à-face, d'une intimité avec Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous redemande à aujourd'hui à redécouvrir cette intimité, ce face-à-face avec lui. Devant ce feu nouveau, la vénérable compagnie des pasteurs issus de la Réforme est dite ceci. Ça va vous montrer un petit peu l'état de la foi à cette période-là de ces pasteurs. Elle demande à tous les pasteurs et étudiants de théologie de signer un règlement qui engage à ne pas prêcher sur la divinité de Christ, le péché originel, la manière dont la grâce opère, la prédestination, etc., etc. La plupart des gens réveillés de cette époque, de ces jeunes théologiens, refusèrent de signer. Heureusement, ça donnait l'Église libre. Nous sommes issus de ça. Maintenant, je vais me poser une autre brique. Je vais vous énumérer certains des puits spirituels issus de ce réveil que nous avons identifiés concernant l'oratoire. Stéphane en a déjà parlé au milieu de nous. C'est donc l'étude et l'enseignement de la parole. Il y avait une école de théologie ici qui formait de futurs pasteurs, et ces futurs pasteurs sont allés en France voisine et jusqu'à très loin amener la parole, la bonne nouvelle. Nous croyons que ce puits, c'est un puits qu'on doit réouvrir. L'enseignement biblique au niveau de l'enfance, Quand je suis arrivée il y a 30 ans dans cette église, il y avait un monsieur, un vieux monsieur, qui s'appelait Max Audier. Et ce vieux monsieur me parlait quand il était petit, quand il avait 5 ans. Il disait, c'était extraordinaire. Il y avait plein d'enfants sur la galerie. Plein d'enfants. Centaines d'enfants. Ces centaines d'enfants qui allaient jusqu'au but pour recevoir l'enseignement de la parole. On croit que ce puits doit être débouché aussi, n'est-ce pas? La louange, on vit des bons temps de louange ici. Mais la louange, à ce temps-là, c'était la création de beaucoup, beaucoup de chants. Et tous ces chants ont arrosé toute la francophonie chrétienne et béni beaucoup de gens. Ça a été aussi la redécouverte des origines judéo-chrétiennes, d'un soutien au peuple d'Israël. Toute une démarche avait été faite dans ce sens-là. Et nous n'allons pas oublier ça ici au milieu de nous. Les soins de première urgence et de soutien spirituel pour les soldats qui s'étaient partis dans les pays en guerre. Les théologiens que je vous ai cités tout à l'heure sont partis, plusieurs, à soutenir ces soldats, prier pour eux. Et certains étaient des chirurgiens comme Louis Appia pour aider. Vous voyez le sens d'un puits? Ça a donné la Croix-Rouge. Le sens de puits, c'est amener une bénédiction plus large. Là, j'ai posé une autre brique. Maintenant, on va aller dans la Bible. On va aller dans Genèse 26. Alors, dans Genèse 26, vous allez trouver quelques versets qui parlent de puits, qu'ils soient bouchés, à creuser ou à découvrir. Lors de ses pérégrinations pour aller dans le pays promis, Abraham, sur son trajet, il a creusé plein de puits. Il leur a donné des noms en fonction de l'histoire du moment. À partir du verset 12, nous voyons qu'Isaac, comme son père, est devenu un personnage important et puissant. On peut lire que dans le territoire où il était, c'est-à-dire le territoire des Philistins, où un roi Abimélec était, dans ce territoire, il récoltait le centuple de ce qu'il avait semé. Personnage fort et redouté. On va lire un petit peu ce qu'il fit dans Genèse 26, verset 18, quand il arriva dans ce territoire. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s'établit. Donc ça, la vallée de Guérar, c'est le pays des Philistins. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau. On va s'arrêter là. Découvrir une nouvelle source d'eau dans l'Orient, à cette époque-là, ça montrait vraiment la faveur et la bénédiction de Dieu. Il devint tellement puissant qu'Abimélec, roi des Philistins, et tous les Philistins à cette peuplade devinrent jaloux. En représailles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à boucher tous les puits avec des pierres, tous les puits creusés par Abraham. Comme ce que je vous ai dit en tout début de mon témoignage, des pierres pour que l'eau ne puisse plus venir. Il faut préciser qu'Isaac était arrivé sur ce territoire parce qu'il y avait une grande famine où il a été et que Dieu l'a exhorté à aller dans cette région. Il a suivi ce que Dieu lui a demandé. Posséder un puits en ce temps-là était un signe d'indépendance par rapport aux peuplades des alentours. C'est grâce à des puits qu'on n'était pas obligé de faire des alliances contraignantes pour avoir accès à l'eau. Dans l'Orient desséché, l'eau était et est une nécessité urgente. Combler un puits, c'est un signe clair d'hostilité. C'est même un acte criminel, parce que pas d'accès à l'eau signifiait être tellement vulnérable, parce que ça voulait dire ne pas pouvoir s'abreuver, les humains comme les animaux, et ça voulait dire mourir à court terme. Donc Abimélec voit que ça commence à sentir le vinaigre entre ses bergers, les Philistins, et les bergers d'Isaac. Et il va demander à Isaac de quitter ce territoire. On va voir un petit peu la réaction d'Isaac. Elle n'est pas tellement commentée, mais on suppose certaines choses. Il semble qu'elle fut paisible, la réaction d'Isaac. Il était pourtant supérieur en force. Il ne rentra pas dans une querelle et partit ailleurs. Donc Isaac se déplace, va ailleurs et creuse un premier puits. Et dans ce premier puits, il le nomme Ézek. Ézek qui veut dire dispute, car dans la nouvelle région où il se trouve, les bergers se querellèrent avec les bergers d'Isaac et le puits fut à nouveau bouché. C'est vrai qu'il y a peu de commentaires concernant l'attitude d'Isaac, mais on sait qu'il se redéplace une deuxième fois et qu'il va creuser un deuxième puits, plus loin, ailleurs. Ce deuxième puits, il l'appelle Sitna, qui veut dire opposition. Là aussi, les habitants se fâchent. Cette eau, elle est à nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bouchent le puits. Isaac ne broncha pas et s'en alla pacifiquement. Ça, c'est moi qui le rajoute, parce que c'est rien écrit. On sait juste qu'il se déplace une troisième fois et qu'il va creuser un troisième puits. Et là, il y a un changement. Parce que pour celui-ci, il est noté qu'on ne lui cherche pas querelle. Il le nomme Rehoboth, larges espaces. Car il dit, maintenant, l'Éternel nous a mis au large et nous allons prospérer dans le pays. Isaac, avec sagesse, je vais y arriver, a choisi de ne pas se quereller au sujet de ses puits. Il aurait pu, c'était un seigneur puissant, redoutable, il aurait pu lever une armée et se battre pour reprendre ce qui était à lui et ce qu'il avait fait. Mais Isaac avait compris que la faveur et la bénédiction de Dieu étaient sur lui et qu'elle le suivait partout où il se déplaçait. Parfois, il vaut mieux lâcher que s'entêter et se quereller. Ça, c'est une autre brique. Je vais faire un petit résumé de l'enseignement que j'avais donné sur saisir notre destinée lors du mois de février. Donc, nous avons vu que Dieu, dans son amour et sa bonté, nous donne soit ou plusieurs dons. C'est la parabole des talents. Vous vous rappelez, il y en a un qui reçoit 5 talents et d'autres 1 talent. Et on a appris que Dieu ne nous donne pas plus que ce que l'on peut gérer. Et ça nous permet de rentrer dans notre destinée. Nous avons vu que Dieu, dans son amour et sa bonté, donc nous donne plusieurs dons qui va nous permettre d'entrer dans cette destinée. Ça, je viens de vous le dire. Nous avons cheminé au travers de l'histoire de David et Goliath pour comprendre 3 clés qui nous permettent d'entrer dans cette destinée. On a vu qu'il ne fallait pas se focaliser sur nos limites. On a vu que David avait réalisé la puissance qu'il avait en Dieu. Et la troisième chose, la troisième clé, il a vu et il a senti qu'il était connu de Dieu. En conclusion, nous avons réalisé que nous soyons appelés à être rois comme David ou à devenir moniteur de l'école du dimanche, nous devons accepter et croire que Dieu a une destinée pour chacun de nous et nous lever pour entrer dans celle-ci avec détermination, car les défis et les difficultés, ils vont être très nombreux afin qu'on ne puisse pas rentrer dans cette destinée. Si l'ennemi arrive à nous détourner de ce qu'il a placé dans notre vie depuis notre naissance, il a gagné. Nous ne sommes pas dangereux. Pour libérer notre destinée, Jésus, à la fin de son ministère, nous a dit « Allez et faites !» Cela présuppose donc une action de notre part. Pour libérer notre destinée, il va falloir libérer notre foi. Il va falloir la faire grandir. Car la foi, elle s'oppose au fatalisme, au négativisme. La foi, c'est entrer en action et croire que Dieu a préparé un destin glorieux pour chacun d'entre nous. C'est de choisir de croire que Dieu nous dit la vérité et qu'il nous dit que nous avons une destinée et il nous faut obéir et nous lever pour entrer dans cette destinée. Encore une petite brique. Je vais vous lire une petite maxime que j'ai trouvée intéressante, que j'aime beaucoup. Sans rêve, nous n'atteignons rien. Sans amour, nous ne sentons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous avons besoin que Dieu vienne nous parler dans nos vies et sur nos vies pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Tu veux que je répète? Volontiers. Sans rêve, nous n'atteignons rien. Rêvez, mes amis. Rêvez, mes frères et sœurs. Ayez des projets que Dieu place dans vos cœurs. Sans amour, nous ne sentons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Service. J'aimerais vous parler maintenant de la destinée d'un autre personnage connu, celle de Josué. Ce dont je vais vous parler se trouve dans les trois premiers chapitres de Josué. Et nous allons voir comment creuser les puits de notre destinée. La destinée de Josué, elle était énorme, a été de faire rentrer tout un peuple dans quelque chose de totalement nouveau après 40 ans d'arrêt dans un désert, 40 ans de statu quo, afin d'obéir à une promesse que Dieu avait faite, celle de recevoir le pays de Canaan. Tout ce peuple, et Josué à sa tête, allait devoir faire face à plusieurs défis majeurs, hors normes, avec de nouvelles bases et de nouvelles stratégies, dont le premier défi était de traverser un fleuve en crue. C'est pas rien. Contexte. Ça faisait 40 ans que le peuple errait dans le désert. Suite au refus de croire que Dieu était tout-puissant, malgré tous les miracles pour sortir d'Égypte, ce peuple avait vu des choses incroyables. Il avait traversé la mer morte, non la mer rouge, je ne sais plus, afin de leur donner un pays promis depuis si longtemps. Toute une génération désobéissante devait y mourir selon le jugement de Dieu. Et c'est ce qui arriva dans ce désert. Ces 40 ans ont été des temps difficiles. Mais nous savons que ce qui est difficile est en principe formateur, n'est-ce pas? Si nous choisissons de continuer à aller de l'avant. Finalement, on devrait bénir tous ceux qui nous empêchent de marcher et d'aller de l'avant. Parce qu'à quelque part, ils nous rendent plus forts. Il suffit de voir l'histoire de Joseph. Lui, il a reçu une promesse dans son jeune âge. Il allait régner sur toute sa famille et la sauver de la famine. Mais ça a pris du temps. Les puits de la destinée de Joseph auraient pu être bouchés par les pierres de la douleur, par les pierres du rejet, par les pierres de l'injustice, par la pierre de la jalousie de ses frères et de la souffrance. La Bible ne nous dit pas comment il a fait pour refuser ces pierres dans sa vie. Mais nous savons que cela n'a pas stoppé et qu'il est entré dans sa destinée. Et quelle destinée, hein ? Les coups du sort ne devraient pas nous stopper, mais nous former pour aller de l'avant. Je reviens à Josué. Josué était l'assistant de Moïse. Il a vu et il a appris comment obéir à Dieu et comment gérer un peuple à côté de Moïse. Il l'a vu faire et Dieu plaça Josué à la tête du peuple comme successeur de Moïse avec une promesse incroyable. Et on va lire ensemble cette promesse que l'on trouve dans Josué 1. Moi, j'ai la version Summer. Je crois que ça vaut vraiment la peine. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Rappelez-vous de ça, Dieu nous donne ça. Tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Quelle destinée, c'est incroyable, hein ? Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Quelle promesse ! Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. C'était une partie, cette promesse, de la destinée de Josué. Mais sa destinée, elle a commencé dès sa naissance. Il y a des étapes dans notre vie. Parfois, nous recevons une ou des promesses de Dieu. Dieu nous parle et c'est ce qu'il aime faire. Et après, nous devons vivre une étape plus ou moins longue de préparation pour entrer dans cette promesse. Il faut développer des acquis pratiques pour entrer dans son appel, une formation de son caractère, développer l'intimité avec Dieu, etc. Et tout à coup, l'opportunité se présente. Il y a quelque chose dans lequel on peut rentrer. Et c'est le commencement d'une nouvelle étape, d'un grand défi. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que Dieu dit trois fois à Josué la même chose. Quand Dieu dit quelque chose trois fois, c'est du béton et c'est de la vérité. Il faut s'y tenir. Il dit trois fois, prends courage, tiens bon. Prends courage, tiens bon. Prends courage, tiens bon. Et il rajoute à la fin, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Pourquoi Dieu lui dit ça? Ça veut dire que Josué allait devoir faire face à des défis hors normes. Josué n'allait pas la fleur au fusil, traverser son Jourdain, aller combattre les peuples de l'autre côté du Jourdain et conquérir tout un territoire. Ça n'allait pas être facile. Si l'on se réfère à la parabole des talents, Josué, il a reçu le maximum. Allez, 6 talents en tout cas. Mais ses défis allaient être à la hauteur de sa destinée, à la hauteur de son appel. On va voir cela d'un peu plus près. Durant les 40 ans de désert, Josué avait perdu tous ceux avec qui il avait vécu et tous ceux qu'il connaissait. Toute la génération de ceux qu'il connaissait était morte. Il venait aussi de perdre son mentor, son père spirituel, Moïse. Et je pense que Josué n'était pas guilleret, mais il était plutôt abattu. Lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un qui nous est cher, nous pouvons nous arrêter dans la marche à cause de la pierre du deuil, à cause de la pierre du découragement ou de la tristesse. Lorsque ces éléments bouchent notre puits, ils peuvent nous amener à une vision négative des circonstances et de la situation. Vous savez, c'est le verre à moitié vide. Je vois que ce qui ne va pas. Je crois que je ne suis pas capable. Et même si Dieu fait des promesses sur ma vie, je n'arrive pas à développer la foi pour ça. Je vois tout de manière négative, je mets des lunettes où tout se vit de cette manière-là, au lieu de porter les lunettes de la réalité et les lunettes de la vérité du royaume de Dieu. Josué et le peuple devaient partir de Sittim, ou Chittim dans certaines traductions, pour traverser le Jourdain. C'était le dernier lieu de campement du peuple d'Israël. Mais Sittim, c'est aussi un mauvais souvenir pour Josué. C'est un lieu d'échec. Sittim, c'est le lieu de départ des 12 espions envoyés dans le pays de Canaan pour l'explorer 40 ans auparavant. Ce lieu, Sittim, représentait pour Josué le mauvais choix du peuple. Le départ de 40 ans dans le désert est le jugement de Dieu. Sittim, c'est le rappel d'événements liés à l'échec, au statu quo, à la déception, à la trahison d'amis qui choisissent une autre voie. Sur les 12 espions, il n'y a que Josué et Caleb qui croient à la puissance de Dieu et qui croient que Dieu peut leur donner ce pays. Et ces émotions que je viens de vous citer sont souvent des pierres qui pèsent très lourd et qui peuvent boucher les puits de notre destinée. Quand tu choisis de ne pas obéir à ce que Dieu dit et de faire confiance à Dieu, de ne pas faire confiance à Dieu, tu n'arrives plus à voir la route. Tu n'as plus la colonne de feu la nuit pour te guider ou la colonne de nuée le jour. Et qu'est-ce que tu fais? Tu erres, tu erres, tu erres. 40 ans, 40 ans d'errance dans le désert. Donc, après 40 ans, Josué se retrouve à la case départ, Sittim. On peut supposer que Josué était encore terrassé par le deuil de Moïse et puis qu'il était aussi terrassé par les mauvais souvenirs. Car avant de lui donner les promesses que nous avons lues tout à l'heure, les promesses qu'on trouve dans le verset 3, Dieu lui dit au verset 2, « Lève-toi, lève-toi Josué. » Donc on peut supposer qu'il était soit assis, soit désespéré, assis moralement, ça vous arrive aussi. On est debout mais dans la tête on est assis, on n'en peut plus. Moi ça m'arrive souvent. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons que Josué s'est levé dans sa destinée. Mais à ce moment-là de son histoire, où les petits vélos devaient tourner sans fin dans sa tête, c'est-à-dire à Sittim, Josué aurait pu choisir autre chose. Il aurait pu choisir de laisser toutes les pierres que je vous ai citées tout à l'heure boucher sa destinée. Comme Joseph, il aurait pu choisir de s'arrêter et se dire « ça va pas, c'est trop dur, je m'arrête ». Josué a eu le courage de se lever, de quitter ce que représentait Sittim, de ne pas écouter ses pensées négatives et les bonnes raisons qu'il aurait envoyées, lui et le peuple, à nouveau dans le désert. Josué a choisi de faire confiance à Dieu et aux promesses extraordinaires que nous avons lues tout à l'heure. Le désert, cela devrait être juste un passage. Le désert, ça devrait être juste un passage permis par Dieu. C'est pas un but, le désert. Bien-aimé de Dieu, chers frères, chères sœurs, levons-nous comme Josué. Choisissons de quitter l'endroit de nos deuils, l'endroit de nos déceptions, l'endroit des trahisons. Levons-nous et quittons le désert. Levons-nous pour entrer dans notre destinée, acceptons un nouveau cap. Changeons d'attitude sur les événements du passé qui pourraient boucher nos puits. Ces événements sont derrière nous. Il nous faut arrêter de les remettre chaque fois devant nous, devant nos yeux, et ruminer dessus. Ça, c'est une pierre importante, hein, une brique là, lourde. Quittons notre Sittim et acceptons de traverser notre Jourdain. Devenons comme les héros de la foi qui sont cités dans Hébreux 11. Eux aussi, ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont vécu des déserts, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué leur marche vers leur destinée. Exemple Joseph. Hein. Les déserts de leur vie les ont formés et propulsés pour aller de l'avant. Ça n'a pas été la fin de leur histoire, mais le commencement d'une nouvelle étape, de quelque chose de nouveau. Il faut que nous apprenions à tourner la page, à faire comme Isaac a lâché. J'aimerais m'attarder sur un verset, c'est Josué 3, verset 5, où nous lisons ceci. Josué dit au peuple, « Purifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » C'est la dernière brique que j'ai posée. Se purifier, purifier le puits de notre destinée, veut dire nettoyer ce qui souille, ce qui bouche nos puits. C'est accepter le regard de Dieu dans nos vies. C'est accepter que, comme le peuple de Dieu, nous faisons parfois de mauvais choix qui nous entraînent dans des déserts et qu'il serait bon de se repentir pour cela. Essayons d'imaginer ce que cela pouvait représenter pour ce peuple d'Israël de traverser le Jourdain et d'aller conquérir ce nouveau territoire. Essayons de comprendre ce que Dieu veut nous dire pour nous maintenant dans cette saison. Je reprends ce verset. Purifiez-vous, et moi je rajoute, aujourd'hui, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous allons nous focaliser sur ces deux mots, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, je choisis de me purifier et de changer d'attitude. afin de ne plus être une victime des circonstances. Et je deviens à mon tour un héros ou une héroïne de la foi. Aujourd'hui, je refuse que les pierres du deuil, les pierres de la déception, les pierres de l'amertume, les pierres de la rancune, la pierre de la jalousie, la pierre de la dépression, et je pourrais en rajouter, bouche les puits de ma destinée. Aujourd'hui, je choisis. Je vais m'arrêter là, je veux juste prier pour ça. Seigneur, tu sais les dons, les promesses que tu as faites sur nos vies. Seigneur, tu sais à quoi tu nous appelles, notre destinée. Seigneur, nous désirons rentrer dans notre destinée. Nous désirons t'obéir et marcher selon tes voies. Mais Seigneur, tu vois nos puits. Tu vois nos puits. Il y a des pierres. Certaines pierres. Je vais faire silence. Réfléchissez peut-être aux pierres qui bouchent votre puits. Seigneur, je reconnais. Je reconnais qu'il y a des pierres dans ma vie. Qu'il y a des pierres qui bouchent l'eau de ton esprit, qui coulent du trône de ta grâce. Seigneur, tu veux donner une source d'eau vive dans nos puits. Tu veux que cette eau remplisse nos puits. Tu veux que cette eau aille abreuver les autres, mon voisin, ma communauté, ma ville, mon quartier. Seigneur, tu veux tout ça. Et moi, je garde ces pierres. Moi, je garde ces pierres. Mais je ne les veux plus, Seigneur. Je ne veux plus de ces pierres qui m'empêchent de recevoir l'eau vive qui vient d'en haut. Jésus, tu as tout accompli. Tu es mort pour chacun d'entre nous. Afin que nous soyons libérés de nos pierres. Afin que nous soyons libérés de nos péchés. Nous ne voulons plus être captifs. Nous ne voulons plus avoir ça dans nos vies. Seigneur Jésus, tu as tout accompli pour que nous puissions le vivre chaque jour. Seigneur, tu veux purifier l'eau de nos puits. Tu ne veux plus qu'il y ait de l'eau mélangée, de l'eau souillée, de l'eau polluée. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Tu as fait une promesse dans Ésaïe. Et je crois que cette promesse est pour nous. Est pour nous aujourd'hui et dans les temps qui viennent. Seigneur, nous voulons annoncer cette belle promesse que tu veux délivrer les captifs, que tu veux restaurer des vies, que tu veux guérir des malades, que ce soit des malades physiques ou des malades psychologiques. Seigneur, tu veux le faire. Tu dis que tu veux le faire. Et nous croyons que c'est la vérité. Seigneur, nous choisissons comme Josué de nous lever et de ne pas rester assis avec toute notre sittim et ce que cela représente. Amen. Nous avons travaillé sur aujourd'hui et maintenant on va voir demain. Demain, j'entre dans une nouvelle étape. Demain, c'est un mot plein d'espérance. Demain, avec le peuple, je quitte le désert. Demain, il y aura des choses nouvelles et de l'espoir. Dieu a un plan pour réaliser, qu'il va réaliser dans ma vie. Il t'a donné des talents, selon la parabole que j'ai citée plusieurs fois, sur laquelle on s'est arrêté lors du dernier enseignement. Demain, il va te demander de déchirer ce qui a été et qui ne sera plus. Ce que Dieu veut faire est nouveau. Le chemin pour le peuple d'Israël va être totalement différent. C'est un peuple qui va quitter le désert et tout ce qu'il y a vécu. Il n'y aura plus de manne tous les jours, sauf un jour. Il n'y aura plus de vêtements qui ne s'useront plus. Plus de colonnes de nuée pour les guider la journée et de colonnes de feu la nuit. Demain, pour le peuple juif et Josué, cela va être de mettre pour la première fois l'arche de l'Alliance devant le peuple, portée par les prêtres. Demain, c'est la traversée d'un fleuve en crue. Demain, c'est la présence de Dieu au milieu du Jourdain qui permet le miracle de l'arrêt des eaux. Incroyable ! Demain, c'est le début de la conquête d'un territoire promis depuis si longtemps. Quel est notre demain à nous, pour notre communauté ? Quel peuple sommes-nous ? Quel est notre Jourdain, notre défi hors norme ? Quelle conquête Dieu nous demande ? Tout a été nouveau pour le peuple d'Israël. Et il a fallu beaucoup de courage à Josué. Il a tenu bon. Il ne s'est pas laissé effrayer par les défis ou par ses souvenirs et par son deuil. Il n'a pas craint, car il a cru à la promesse de Dieu pour demain. Je vais conclure par ceci. Je crois que nous sommes comme le peuple de Dieu avant la traversée du Jourdain. Je crois que Dieu a des nouveaux plans pour notre communauté. Dieu se plaît à faire des choses de manière nouvelle, car il sait qu'on aime les habitudes. Et il n'a pas envie que l'on se contente d'habitudes. Ce qu'il souhaite, c'est une relation avec nous, pour qu'il puisse nous dévoiler pas à pas, au fur et à mesure, ses plans. Dieu nous dit, et pas seulement à nous ici à l'oratoire, mais dans les maisons de prière de par le monde et dans différentes conférences, on a vu ça, qu'il a un autre plan, un autre chemin pour la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Il a une autre façon de faire pour les temps qui viennent. Dieu est un Dieu de surprises, mais de bonnes surprises. Les expériences du passé peuvent devenir inefficaces et ne plus être appropriées. C'est un exemple un peu excessif que je vais vous donner, mais aujourd'hui, on ne fait plus la guerre avec les mêmes armes qu'au Moyen-Âge. Dieu veut déverser un vin nouveau dans une outre neuve. Les temps que nous vivons sont en train de changer. Il change en notre faveur. C'est pour notre bien, car Dieu est bon. Et il aime non seulement nous, les chrétiens et le peuple juif, mais il aime tous les gens qui se trouvent sur cette terre. Et il faut que les choses changent pour que nous puissions amener la bonne nouvelle ailleurs. Dieu est bon. Il faut juste que nous nous alignions à ce que Dieu veut faire. Nous devons apprendre à développer l'intimité avec Dieu pour qu'il puisse nous montrer le chemin, le pas suivant. Il faut qu'on apprenne à écouter et à entendre sa voix. Sinon, on va errer. Dieu nous appelle. Il nous appelle aujourd'hui, ce matin, mais il ne cessera pas de le faire afin que nous entrions chacun dans notre destinée. Il a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Et son appel s'accompagne toujours de sa protection et de son équipement. Ésaïe 42, verset 6, dit ceci. « Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein. » Il n'y a pas que quelques-uns qui sont appelés. Vous êtes tous appelés dans un juste dessein. et je te tiendrai par la main. C'est ça sa promesse. Je te protégerai et je t'établirai. Nous sommes le produit de nos décisions et de nos choix. Nous sommes le produit de nos décisions et de nos choix. Est-ce que nous voulons voir des prodiges et des miracles dans notre vie? Et dans ce lieu, est-ce que nous voulons voir cela? Si c'est le cas, je vous relis ce verset. Purifiez-vous aujourd'hui, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen.